Cœur Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Bonjour, nous allons au théâtre. Bonjour Jean-Luc Génère, bonjour Nadir Amaoui.
Bonjour Christophe.
Bonjour.
Alors, on va parler de plein de pièces, et là il y a une urgence, parce qu'il faut se précipiter, ce sont les dernières, ce soir et demain soir, au théâtre 14. Ce soir c'est à 19h, et samedi c'est à 16h, il s'agit de Clôture d'un amour de Pascal Rambert. Alors on a un plateau nu, un homme, une femme, ils parlent. Nous aimions nous aimer, c'est fini. Il veut la mort d'une conception débile de l'amour. Qui aime-t-on quand on aime? Oui, c'est violent, et alors? C'est une logorée de haine, un monologue de certitude qui détruit tout. Je ne donne pas de coups, je parle, dit-il. Mais chaque mot est un uppercut. Est-il pervers, je le crois? Narcissique, évidemment. Il s'appelle Sam, elle s'appelle Audrey. À son tour de parler et de cogner. Qui convoque quelqu'un pour lui dire que c'est fini, demande-t-elle. Et elle répond coup par coup. Tu n'es pas un général, tu es un déserteur, c'était trop fort pour toi. Et plus loin, ta vie est négative, tout est négatif. Nous sommes des appareils jetables, constate-t-elle. Puis, elle remarque, tu sors des théories. Moi, j'interprète. Merveilleusement féminin, ça. Tu sors des théories, moi, j'interprète. Elle croit qu'un ayant commun est source de joie de vivre. Elle croit au pardon. Elle croit en la vie. Enfin, ce constat terrible, l'imagination est bornée à ce qu'on veut croire. Nous assistons à l'enfer de toute séparation. Conclusion, cet rappel, une salle debout, un ayant commun, la joie de vivre l'emporte sur le cadavre de ce couple-là. C'est ce soir, au Théâtre 14, à 19h, et samedi, à 16h. Ne manquez pas ça, Clôture d'un amour, de Pascal Rambert.
Oui, c'est une très belle pièce. Oui. Moi, je n'ai pas vu cette version-là, mais j'avais vu la précédente. C'est vraiment une excellente pièce de Rambert. Ce qui est dommage, c'est que c'est la politique du Théâtre 14, parce que maintenant, ça devrait se jouer beaucoup plus, quoi.
Mais bien sûr.
Et ça, c'est lamentable depuis que Emmanuel de Chartres a quitté la direction, ce théâtre par Avolo, quoi. Et ça, c'est dommage.
Bon, en tout cas, il faut y aller ce soir ou demain. Vous avez une pièce à nous annoncer. Le crime était prêt, était parfait, ou voilà, presque, vous avez
presque,
vu.
Oui, que j'ai vu, que en fait, c'est encore une très mauvaise pièce, quoi.
On commence bien l'émission.
Voilà, c'est vraiment dommage, parce que les comédiennes sont plutôt bien, tout ça est hyper sympathique dans un théâtre très sympathique, avec un directeur très sympathique. Il y avait un très bon spectacle qui était Rose Vaillant, dans le même théâtre dont on avait parlé la dernière fois. Mais la pièce, elle tient pas debout, quoi. C'est pas possible. C'est l'histoire d'un faux meurtre. Il y a une dame qui a rêvé qu'elle allait être tuée. Et puis ça commence comme ça. Et on tombe d'absurdité en absurdité, sans que ce soit du théâtre de l'absurde. Ça d'accent tout ça dans un espèce de faux réalisme. Ça tient pas debout. Et au bout du compte, ça piétine. Enfin, moi, je me suis assez ennuyé, quoi.
Bon, nous avons beaucoup aimé, Nadir et moi.
Oui, et les deux comédiennes sont aussi absolument excellentes. Pour moi, oui, c'est de l'absurde, parce que l'idée de départ est absurde.
Oui, mais ça tient pas debout, moi, je me suis ennuyé comme tout. Ça, simplement, c'est que les comédiennes sont bien, les deux comédiennes. Elles sont sympathiques, en plus. Elles dégagent de la sympathie, donc oui, ça, c'est surtout fait, la fille qui joue le rôle principal. Donc,
Hélène Degie.
Oui, c'est ça.
Bon, alors, vous avez vu tous les deux... La crème de Normandie.
Oui, de Hervé de Volder, voilà. Et Milena Marinelli, oui.
C'est au théâtre du Gymnase.
Oui, c'est pas le meilleur spectacle de Hervé. Ça piétine au début, là encore. On n'est pas pris tout de suite. Le spectacle est perdu dans la grande salle du théâtre du Gymnase.
Il est trop grand.
C'est trop grand. Et tout ce qui fait le charme habituel de Volbert, là, se dissout. Sa pièce n'est pas concentrée, ça se défait, il part à droite, à gauche.
C'est un problème de casting de théâtre.
Oui, c'est ça. Je pense que c'est le lieu qui ne fonctionne pas, parce qu'on retrouve le charme, la gentillesse, la sympathie, le sourire. Voilà. Et puis, il n'y a pas un air qu'on garde à la fin, quoi. Et ça, alors que c'était un peu le cas dans les autres spectacles.
Ça s'appelle la scie, vous savez.
Oui.
La scie, c'est l'air qu'on va garder en tête et qui fait le final.
Oui, oui.
On a dès l'ouverture et puis ensuite qui fera le final et qui sera repris.
Ah, c'est ça.
Et c'est ce qu'on siffle. Et on cherche toujours la scie.
Voilà,
et,
c'est ça.
Mais il n'y a pas de scie.
Il n'y en a pas. Voilà, c'est ça. Bon, mais
ou
c'est bémol. Mais c'est sympathique et puis c'est formidable de voir autant de comédiens.
Ouais.
Enfin, Bon,
Enfin, on passe une jolie soirée.
C'est un véritable homme de théâtre.
Oui.
Et c'est un homme tellement sympathique. En plus, il est excellent. Il joue dedans et il est excellent, comme d'habitude.
Comme d'habitude, Nadir.
Alors moi, je vais être un peu moins critique que vous, parce que ce n'est que la deuxième pièce de Hervé que... Non, j'ai déjà été beaucoup plus critique que vous. c'est seulement la deuxième pièce que je vois d'Hervé de Wolder. La première, c'était Chance, qui était une pièce musicale qui était excellente, qui était absolument excellente. D'ailleurs, quand elle a été reprise pour son anniversaire, ça a été un carton plein au La Bruyère. Et là, grâce à toi, Christophe, j'ai découvert en fait la vraie définition du vaudeville. Et c'est exactement ce qu'on voit en fait dans cette pièce. C'est une pièce de théâtre comique avec plusieurs airs chantés. On est vraiment dans un vaudeville. L'idée de départ, moi je trouve qu'elle est intéressante, elle est drôle. Un type qui, pour pouvoir relancer la maison close qu'il a ouverte sans le dire à sa femme, veut faire venir un critique. Il veut utiliser, je crois que c'est le neveu de sa femme, pour faire croire que c'est un orphelinat, pour gagner de l'argent, pour renflouer sa maison, sauf que à la place du neveu, c'est sa femme qui débarque, un critique de maison close, les clients de la maison close, le neveu qui débarque, plus toutes les pensionnaires de cette maison qui en font un petit peu qu'à leur tête, qui sont pas la chips la plus croustillante du paquet, comme on dit. Et moi, j'ai passé un très bon moment parce que c'est pas un opéra, c'est pas une opérette, c'est pas une comédie musicale, c'est un théâtre musical qui plaît. On sourit, on rit de temps en temps, les personnages sont drôles, les comédiens sont très bons. Là-dessus, il y a rien à dire. Hervé de Wolder est très bon, tous sans exception. Les musiques, je sais pas si c'est le cas au gymnase, mais les musiciens jouent en live, ce qui est très bien. Parce que quand je l'avais vu, il avait joué au théâtre du Ranelagh. C'était le cas également, mais je sais que dans certains théâtres, c'est plus compliqué. C'est le cas aussi, c'est tout aussi bien.
C'est du vrai spectacle.
Voilà. Et
c'est très bien fait parce que ils sont derrière une tenture de tulle. Donc on les devine de temps en temps, mais sans qu'ils perturbent l'action, quoi. Bon, ça c'est bien fait.
Voilà. Et je trouve que c'est un style de théâtre qu'on n'a pas énormément souvent ces dernières années ici à Paris.
C'est typiquement français, en tout cas.
Voilà. Oui, c'est ça.
Oui, bien sûr.
Et on est dans la lignée d'Offenbach, tout ça. Absolument. Voilà.
Oui, voilà, c'est ça.
Et des Labiche chantées. Voilà.
Tout à fait.
Tout ça, c'est
le vaudeville. Le vaudeville de la
belle époque. C'est charmant, mais ça se traîne un peu, quoi. Surtout, ça met pas mal de temps à démarrer.
Peut-être pour bien mettre le cadre de la pièce, je pense.
Ça... Voilà. Pour donner un peu de culture théâtrale, le vaudeville, c'est pas forcément le mari, l'amant et...
dans le placard.
Et l'amant dans le placard. Non, le vaudeville, c'est une partition. C'est une partition que l'on insère dans le texte de la pièce. Donc quand on dit c'est un vaudeville, c'est qu'il y a certains morceaux qui sont chantés et qui arrivent... comme une espèce de truffe à l'intérieur.
Comme doit-on le dire de la biche.
De la biche, et comme pas mal de...
Ah oui, d'Offenbach, tout simplement.
Voilà. J'ai vu Port-Royal d'Henri de Monterland, c'est au théâtre du Nord-Ouest parisien, chez vous, donc Jean-Luc Génère.
Absolument. Ouais.
Nous sommes en 1661, Louis XIV a 23 ans, mais il ne sera pas question de lui alors qu'il est le grand ordonnateur contre le jansénisme. À Port-Royal, elles sont 69 religieuses, plutôt élevées et de bonne famille, alors que les monastères et les couvents rassemblent généralement des dégénérés qui, en communauté, trouvent une nouvelle famille et une vocation, la prière. Non, là, c'est vraiment du top niveau. Et quand on est en paix, quand on ne fait qu'obéir, dit la jeune nonne à son père derrière la grille. Comme on est en paix quand on ne fait qu'obéir. Vous avez remarqué Saint-Alexandrin. Or, le pape Alexandre VII a repris la condamnation de son prédécesseur, Innocent X, pour élaborer un formulaire de 5 propositions qui annule les thèses sur la grâce de Jansénus. Il est demandé à tout religieux et à toute religieuse de signer. Alors, au couvent de Port-Royal, l'archevêque de Paris, Mgr Perfix, vient exiger des sœurs qu'elles signent le formulaire. Merveilleuse scène au début de la récréation des sœurs, où elles rient. Elle se moque de Perfix et elle rit avec beaucoup de candeur. Et ça, c'est très, très joli. Elle rit comme des moineaux. Elle se moque gentiment de l'archevêque. Avec Port-Royal, on ne sait jamais sur quel pied danser, dira le prélat. Il intervient dans un magnifique tableau où les sœurs sont à genoux. Il parle de souffrance, hérésie et grâce. Et elles répondent liberté, vérité, pureté. Il aime obéir aux grands pour commander aux petits. Tout se passe en une seule journée, la dramaturgie est efficace jusqu'au retournement final où l'on comprend que Judas est intrinsèque à la passion et peut-être à toute communauté. Alors c'est très rare d'assister à un tel texte, donc vraiment je ne saurais que trop vous encourager d'y aller. Ça dure 2h30
2h20.
2h20. Mais on ne voit pas le temps passer. Il n'y a pas de décor. Il y a 9 nonnes et un évêque. Et alors, elles sont toutes en uniforme, mais elles sont tellement caractérisées par juste leur visage qu'on voit très, très bien les caractères et la distribution est fort bonne. Petit bémol, peut-être, c'est... Petit bémol, mais ça, je le dis au metteur en scène qui est devant moi. Je trouve que lorsque le père fixe traverse la communauté quand elles sont à genoux, ça casse la communauté. Je pense qu'il pourrait plutôt les encercler.
Mais c'était fait exprès. Il essaye de casser la communauté.
Oui, plutôt que de rentrer.
Il essaye, mais...
Il essaye, voilà. Mais enfin,
symboliquement, dans la mise en scène, ça casse le... C'est fait exprès.
Mais la pièce est faite...
De toute façon, comme tout. Tout ce que je fais en général.
Non, mais tout est signifiant.
Oui, tout est signifiant. Il n'y a pas un truc...
Tout est signifiant.
Si on répète, c'est des pièces qu'on répète 2 mois et demi. Je veux dire que c'est un travail considérable.
Mm. Ça se joue la prochaine fois, c'est quand?
Je sais pas.
Bon, donc vous allez sur le
site. Le théâtre du Nord-Ouest, c'est toujours un théâtre d'alternance, donc.
Sur le site du théâtre du Nord-Ouest parisien, et puis pour Port-Royal, Dorine Monterland, parce que c'est vraiment un must. Vous avez vu Frida, Nadir?
Oui, tout ça à se donne fait. Où à la Manufacture des Abbesses.
Voilà.
Ça se joue les dimanches à 20h et du lundi au mercredi à 21h jusqu'au 20 mai.
De quoi s'agit-il?
Alors, c'est la vie de Frida Kahlo, tout simplement, mais en 1h10. C'est-à-dire qu'en fait, dès que nous rentrons dans la salle, nous sommes accueillis par toutes les personnes qui ont entouré la vie de Frida Kahlo, c'est-à-dire sa sœur, son mari, son médecin et celle qui gère le musée où il y a toutes ses œuvres. Mais on ne la voit pas, on ne voit pas Frida Kahlo, on ne sait pas où elle est. Et dès que la salle tombe dans le noir, un rideau s'ouvre et il y a Frida Kahlo en chaise roulante. Et en fait, là où c'est très astucieux, c'est que... En fait, on passe d'un lieu à un autre, d'une époque à une autre, et uniquement parce que au milieu de cette scène, donc que vous connaissez la Manufacture des Abbesses, il y a un carré avec 4 rideaux accrochés les uns à côté des autres. Il suffit juste de tourner ce rideau et on se retrouve soit dans la demeure de la famille de Frida Kahlo, soit dans l'appartement du couple aux États-Unis, dans tous les endroits où Frida Kahlo est passée. Et en 1h10, on découvre à peu près la vie de Frida Kahlo, de son adolescence jusqu'à son lit de mort. Et j'ai trouvé ce spectacle absolument sublime. L'autrice et metteuse en scène Paola Dugno a fait un travail excellent. On a une femme qui est assise pendant 1h10, et en fait, c'est la narratrice du spectacle. On a l'impression que c'est la conservatrice d'un musée qui annonce le lieu, à quelle époque on est, quel âge a Frida. Et la comédienne qu'elle a choisie pour jouer Frida Kahlo, qui s'appelle Anna Lorvaux, est juste absolument splendide. Il n'y a pas d'autre mot, elle est splendide. Quand on voit son visage, on a l'impression de voir Penélope Cruz jeune au début de sa carrière. Et tous les comédiens, même le texte est juste, le texte est intéressant et les comédiens sont tous très bons. Celui qui joue le médecin joue aussi le père de Frida, il joue aussi Trotsky. Il y a la sœur de Frida, il y a la mère qui joue aussi la conservatrice du musée. En fait, les autres personnages passent d'un rôle à un autre. Il n'y a que Frida et celui qui joue son mari qui sont les mêmes personnages pendant 1h10.
Pour les étudiants en grève qui nous écoutent, rappelez-nous qui est Frida Kahlo.
Alors Frida Kahlo, c'est une artiste peintre du début du XXe siècle qui est plus connue par le fait qu'elle avait un mono-sourcil, chose que trait de j'ai pas dire de génie, mais un petit trait qu'a voulu faire la metteuse en scène et autrice. Elle ne voulait pas que ce soit vraiment un copier-coller de Frida Kahlo, donc il n'y a pas le mono-sourcil. Bon. Le premier truc qu'on voit de Frida Kahlo, on dit « Ah ben il n'y a pas le mono-sourcil ». Oui, mais parce qu'on s'en fout en réalité.
Ben oui.
Et la comédienne, et celle qu'elle a pris pour jouer Frida Kahlo, est absolument... Ça fonctionne très bien parce qu'on sent la passion, la passionnariat dans sa manière de jouer. Et on passe vraiment 1h10, vous voyez, ça dure 1h10 à découvrir une Frida Kahlo qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que moi, je ne connaissais que quelques peintures de l'artiste.
Oui.
Et on découvre sa vie. Et c'est vraiment très réussi. C'est une jeune compagnie. Et bon. C'est un spectacle qui est très, très beau.
C'est une Argentine, info. C'est un peintre argentin. Quoi.
Oui.
Oui.
Absolument.
Voilà. Non, mais ça, il y avait aussi un spectacle qui était très très bien au De Jazet sur Frida Kahlo il y a quelques années.
Ben, c'est un personnage.
Un personnage assez étonnant.
Étonnant et donc éminemment théâtral.
Oui.
Vous avez vu une autre pièce, c'est L'île des esclaves.
Oui, j'ai vu L'île des esclaves au Lucernaire.
Oula.
Merci.
Ça commence par.
C'est
Marivaux, nous sommes
oui,
d'accord.
Oui, c'est Marivaux. Bah, c'est mais c'est pas la meilleure pièce de Marivaux.
Non.
Et c'est dommage parce que là, il avait un thème absolument extraordinaire, quoi.
Mm.
Je vais faire comme vous. Je vais raconter la pièce.
Oui, il faut.
Oui, il faut pas toujours parce que
non, mais
quelquefois on noie les.
Non, mais c'est bien les auditeurs peuvent rêver comme ça.
Oui, mais quelquefois on en dit trop et à ce moment-là, quand ils vont voir le spectacle.
J'en ai pas trop dit, j'espère.
Non. Bon.
Moi non plus, j'ai vraiment sur.
Mais t'as donné envie.
Quelquefois on en dit trop parce que ce qui fait qu'on tue le suspense et.
Ah ben non, il faut pas.
Et le théâtre, c'est aussi, on ne sait pas ce qui va arriver.
Quoi. La critique être une sorte de pédagogie de l'enthousiasme.
Exactement.
Disait Aragon.
Ah voilà.
Dans Jabat mon jeu.
Pour une fois, je serais d'accord avec Aragon.
Bon, ben voilà, la pédagogie. Alors, avec pédagogie de l'enthousiasme, s'il vous plaît, Jean-Luc Génère, racontez-nous L'île des esclaves.
Voilà, il y a, comme souvent chez Shakespeare ou chez Marivaux, une tempête. Mmh. Et puis, on se retrouve donc sur une île avec deux couples, avec le maître et son esclave mâle, et puis la maîtresse et son esclave femelle. Et puis là, ils tombent sur une île qui est l'île des esclaves, où tout d'un coup, tout est retourné. Donc le maître va devenir l'esclave, et l'esclave va devenir le maître dans les deux ans. Et ensuite, savoir comment ils vont arriver à...
Est-ce que ça va dégénérer, ou est-ce que ça va se construire ?
Là, ça va se construire. Donc c'est un sujet assez formidable, voilà. Bon, ce qui est dommage, c'est que la pièce est un peu courte, c'est-à-dire qu'elle elle développe pas vraiment, véritablement le sujet, et ce qui fait qu'on est un peu en manque. Et d'autant que là, dans la mise en scène, c'est un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est pas assez assis pour qu'on soit véritablement en empathie avec les personnages. Les retournements, et je le dirai pas, je ne dirai pas ce qui se passe, le retournement est difficilement compréhensible. On sort pas de là plein comme on devrait l'être avec un sujet comme ça, parce qu'il y a de l'humanité, comme je dis toujours chez Marivaux, il y a de la cruauté, il y a de l'humanité, il y a de la fragilité, il y a tout ça qu'on sent pas, ça fait un peu illustratif. Et voilà, c'est un peu dommage, mais c'est pas mal quand même. Voilà, il faut dire que c'est pas mal. Et puis ceux qui connaissent pas la pièce, allez-y, parce que c'est toujours la même chose. Mais c'est pas la dispute, c'est pas les grandes pièces de Marivaux,
c'est pas
le triomphe de l'amour, c'est pas le jeu de l'amour du hasard, la phrase suivante, qui est peut-être son chef-d'œuvre.
Mais curieusement, elle est souvent jouée.
Oui, elle est souvent jouée parce qu'elle est courte.
Oui.
Parce qu'elle est courte.
Et
que voilà. Bon, et puis surtout, c'est un sujet social, quoi. C'est-à-dire que donc c'est un sujet de gauche, quoi.
Contrairement à la fausse suivante, j'ai l'impression qu'elle est pas souvent, jouée au théâtre. J'ai l'impression ces dernières années.
La fausse suivante
de Marivaux, oui.
Ah bah pour moi, c'est son chef-d'œuvre. Alors donc, mais parce qu'elle est une pièce déséquilibrée. Dans la fausse suivante, il y a un premier acte, une première scène qui dure quasiment le un tiers de la pièce,
oui,
et qui est une scène absolument formidable. Mais elle est donc c'est pour ça qu'elle est une pièce un peu déséquilibrée.
D'accord.
Mais une fois que la première scène est passée, c'est extraordinaire,
d'accord.
Extraordinaire.
Nadir, vous avez vu Un seul en scène?
Oui, de Clémence Lepage.
Voilà.
Suis-moi, je te suis à la Divine Comédie. Donc c'est une jeune fille qui va raconter un petit peu sa vie, une jeune femme qui n'a pas, qui se disperse très facilement, et sa vie est presque tout aussi dispersée, puis elle nous raconte des petites bribes de sa vie qui sont absolument humoristiques. Elle est complètement, on va dire qu'elle est complètement barrée, cette jeune demoiselle, et elle nous raconte des anecdotes concernant sa vie de famille qui est absolument stupéfiante. On se demande, mais c'est pas vrai, elle a écrit pour ce spectacle. Non, pas du tout, ça a vraiment eu lieu. Elle raconte un jour où elle a perdu, elle jouait à cache-cache avec ses neveux dans un parc André Citroën dans le 15e. Elle les a perdus.
Elle jouait cache-cache avec ses sept ou huit neveux et elle s'est amusée, juste pour les amuser, elle les a complètement perdus dans le parc. Elle a passé toute une après-midi à les rechercher. Mais en fait, la manière dont elle le raconte, c'est vraiment avec un trait d'humour. Elle imagine toutes les pires choses qui auraient pu leur arriver. Elle raconte aussi un petit passage à Disneyland avec ses neveux. Elle raconte son rêve d'amour. Plein de choses. Elle, en fait, elle raconte plein de choses, mais ce qui est, non, en plus d'être drôle et d'être complètement barrée, elle est très touchante. Elle est très, très touchante. Elle est toute mignonne à nous raconter sa vie, à raconter ses rêves et tout.
Et on y croit.
Et on y croit, mais on y croit totalement, parce que là, vraiment, on ne peut pas être plus ancré dans la réalité.
Est-ce que je peux vous poser une question à vous deux?
Oui.
Oui.
Combien croyez-vous qu'il y a en ce moment à Paris, sans compter les cafés-théâtres, de solo?
De seul en scène ?
Oui, de seul en scène.
Oh, un tiers ?
J'allais dire une cinquantaine au minimum.
Tu dis 50, toi ?
Une cinquantaine à peu près, je pense.
Et toi, Christophe ?
Un tiers.
75.
Ah, j'étais pas loin.
75 seul en scène.
75, sans compter les cafés-théâtres.
Bien sûr.
Sans compter les... Bien sûr. Là, on arrivera à 150. Alors, ça devient un vrai problème, quoi.
Ça devient un vrai problème, mais ça peut faire aussi de très, très beaux succès. Je pense à Kessel, la Liberté.
Ah oui, oui, voilà. Bien sûr.
Franck Desmet, qui se joue actuellement au Théâtre Rive Gauche et qui sera en rivalité au Molière lundi soir avec Eva Rami dans son spectacle « Va aimer ». Qui est le troisième d'une trilogie sur un peu ses amours et la difficulté d'être.
Je parlais aussi de Valentine Tessier l'autre jour.
Et Valentine Tessier.
Il y a de très très bons.
C'est
pas le problème. C'est non. Pas ça qui est en cause.
C'est qu'il y en a trop.
C'est qu'il y en a trop.
Oui. Mais bon, donc allez voir Kessel, allez voir Vaimer, allez voir
Valentine Tessier.
Et puis allez voir.
Clémence Lepage dans Suis-moi, je te suis.
Clémence Lepage. Et puis on va retourner au théâtre pour voir plein de comédiens sur scène. Mm-hmm. Alors il y a le Dindon actuellement de Georges Feydeau, mis en scène par Thomas Ledouarec. C'est les lundis et c'est au théâtre des Béliers dans le 18e arrondissement de Paris. Alors, bon, les amis, les aficionados de Thomas Ledouarec vont se régaler. Son adaptation, sa modernisation, le regard contemporain font un spectacle délirant, fou. Les passionnés de Feydeau seront peut-être un peu...
Il fait du Ledouarec, j'imagine.
Un peu hostile. Alors, vous savez, dans les comédies de Feydeau, sauf dans La main passe... Mm-hmm. Les couples ne franchissent jamais l'adultère. C'est toujours le désir qui est tendu, et ils sont toujours dérangés par un valet, le mari, et le bon ami, etc. Alors ici, Ledouarec déshabille les protagonistes qui vont se retrouver au lit ou juste en dessous pour ces dames. Jamais Feydeau ne va jusque-là, je viens de le dire, et c'est ça qui le rend comique. Alors, on se marre, ou plutôt on rit, et puis on sourit, et puis le spectacle avance, et plus le spectacle avance, plus Thomas Ledouarec force les traits jusqu'à une certaine vulgarité, il faut le dire. Alors les comédiens sont d'inégale valeur, c'est un spectacle de sortie de l'école de l'excellent Aquaviva, ça frise le théâtre amateur parfois, donc oui, avec étonnement et bienveillance, j'étais heureux, et par amitié pour Thomas Ledouarec, je me suis franchement marré, en me disant, mais non, il va pas aller jusque-là, et ben si, il allait jusque-là. Et donc, c'est pas pour rien que la pièce tourne au grand comique. Il a été plus inspiré dans son excellent Misanthrope, qui est actuellement au Théâtre de l'Épée de Bois, donc...
Ça reprend bientôt.
C'est oui.
Je crois que c'est au mois de juin.
Oui, ça reprend bientôt. Donc, avoir vraiment le Misanthrope au Théâtre de l'Épée de Bois, le Dindon, allez-y entre étudiants. Et puis j'aime beaucoup cette réplique au début. Mes pensées ne sont pas pures, mais elles ne vous sont point hostiles.
Non, mais c'est une excellente pièce.
Ah oui.
Un des problèmes qu'il y a aujourd'hui, c'est que ces metteurs en scène qui travaillent avec des élèves, parce que là c'est le cas, au lieu de les amener tout de suite à l'essence du théâtre, Il travaille d'une manière superficielle, sur la forme.
Dans la gesticulation.
Voilà, et ça, c'est ce que fait Thomas, et c'est dommage, parce que c'est vraiment beaucoup plus fait. Et finalement, ça donne ensuite, parce qu'après ça, tous ces jeunes comédiens, c'est eux qui vont faire le théâtre de demain. Et c'est vraiment du gâchis, c'est vraiment dommage, quoi.
Parce que la réplique du Dindon en disant « Mais cette femme que je ne connais pas, le monsieur, je ne le connais pas. » Et finalement, tous les gens qu'il a croisés, il ne les connaît pas. Et à la fin, il comprend qu'il est le Dindon. Mais
c'est une pièce géniale.
Cette phrase-là, elle est géniale. Et cette réplique-là, il ne faut pas la rater.
Ben non.
Là, elle était complètement savonnée.
Ben oui, mais ça, c'est dommage.
Ben oui.
Et souvent, ils font ça, quoi. Quand il y a des cours dans la dramatique comme ça, au contraire, travailler, quoi. Hein. Ils oublient que demain, ce théâtre-là... Il n'y a plus de pièces, il n'y a plus que maintenant des spectacles, il n'y a plus de vrai travail de fond. Quoi. Ça demande du temps, le théâtre, ça ne demande pas simplement du talent. Ça demande aussi du temps, ça demande de mettre les mains dans le cambouis des œuvres. Quoi.
Il vous reste 30 secondes, Jean-Louis Génère, pour nous parler d'un autre spectacle.
Là, je n'ai rien vu de plus que ce que je vous ai dit cette semaine.
C'est quand même énorme.
Voilà, mais...
Puisque nous avons parlé de Port-Royal d'Henri de Monterland.
Port-Royal, j'ai fait les mises en scène.
Donc vous signez la mise en scène, et je peux vous dire que ça ne gesticule pas. Et c'est au théâtre du Nord-Ouest parisien, allez-y, c'est tellement rare.
Non, mais surtout c'est Monterland, quoi, parce que le scandale, c'est que Monterland n'est plus jamais joué.
C'est tellement rare.
La Comédie Française devrait jouer Monterland tout le temps.
Tout le temps. Donc il faut y aller. Ouais. On a parlé de Clôture d'un amour de Pascal Rambert, qui se joue encore ce soir à 19h et samedi à 16h au Théâtre 14 pour ceux qui nous écoutent et ceux qui sont parisiens. Nous avons parlé du Crime était presque parfait, de L'île des esclaves et de La crème de Normandie, qui se joue au théâtre du Gymnase. On a parlé aussi de Frida. Et de Seul en scène, et du Seul en scène, suis-moi, je te suis. Merci Jean-Paul Lérine pour la réalisation, François Dieudonné, Camille Meyer et Faustine et Philippe Malpeche pour la réussite technique de notre rendez-vous. Lundi, nous irons au Musée d'Art Moderne de Paris visiter l'exposition Jean et Lyon que je vous recommande. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end et je vous embrasse.